Vous pouvez le dévoiler maintenant. C'est un jambon qui a été partiellement cuit, saumuré et fumé.
Quand on a dévoilé l'ingrédient de la semaine, j'étais vraiment content que ce soit le jambon fumé. Là. Dans le fond, je viens de passer une saison avec un assiette de cochon juste à faire des jambons à l'érable. Puis t'es bien à l'aise avec le produit, je peux dire, oui.
Vous le savez, au Québec, on aime bien cuisiner le jambon, particulièrement lors des célébrations de Pâques. Et depuis les années 50-60, il y a une recette qui est vraiment devenue un classique au Québec. C'est le fameux jambon à l'ananas, hein, dans lequel il y a du clou de girofle, du sirop d'érable et bien sûr des ananas. Ce soir, on va vous demander de le revisiter en utilisant plutôt un fruit ou des fruits qui sont produits ici.
Voici donc un extrait de l'épisode diffusé demain de l'émission des chefs. Donc, si vous entendez le concept et vous dites, il me semble qu'on n'a pas entendu ça jusqu'à maintenant.
C'est normal.
C'est tout à fait normal. C'est l'épisode de demain. Et on parle de cette émission phare maintenant de la saison dite estivale de Radio-Canada, la 8e saison des chefs.
Qui a débuté plus tôt qu'à l'habitude. Habituellement, on regardait les chefs pendant l'été et là, c'est au printemps. On parle de jambon à l'ananas. C'est ma recette de prédilection. Je dis que je fais le meilleur jambon à l'ananas au monde. Je pense que demain, je vais voir des nouvelles versions de ce jambon. On a avec nous, pour en parler, Pasquale Varry, qui est un des juges de l'émission, et Jean-Luc Boulay. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Est-ce que je vais être surprise avec mon jambon à l'ananas demain?
Bien, à chaque émission, il y a toujours des surprises. Et les candidats, il fallait qu'ils réinventent un petit peu le jambon, mais sans ananas, en utilisant d'autres fruits du Québec, d'autres petits fruits du Québec. C'était ça, le demain soir, qu'est-ce que vous allez voir comme show?
Parce que les ananas, ça ne vient pas du Québec, donc on voulait qu'ils interprètent le jambon à l'ananas, mais avec des petits fruits du Québec. Et de l'érable, bien sûr, parce que le thème, ça va être quand même l'érable. Oui. On est en pleine saison, là.
On en est rendu à la 8e saison. Selon vous, quel est le succès de l'émission des chefs? Qu'est-ce qui fait qu'on aime autant ça après 8 saisons de télévision? Pasquale?
Ben, je pense que déjà la cuisine, c'est quelque chose que tout le monde fait 2 ou 3 fois par jour. On met en valeur le talent culinaire ici au Québec. Le show met en valeur aussi des produits. C'est une super belle compétition où, par quelques erreurs, lorsque les candidats s'enfargent, nous, on corrige ça. Donc, on fait un transfert de connaissances aux gens à la maison. Et je trouve que ça va chercher tout le monde. C'est un show de famille. C'est pas un show pour les 8 ans, 9 ans vont écouter VRAC. Les adultes vont écouter des shows d'adultes. Tout le monde en parle et des trucs comme ça. Mais l'émission Les Chefs va chercher vraiment la famille, les parents avec les enfants.
Je trouve que c'est bon parce qu'on valorise le métier. Les jeunes, on les met sur un plateau, c'est-à-dire ils peuvent s'exprimer beaucoup plus, ils peuvent s'accomplir beaucoup plus. Et puis, on a besoin de cuisiniers, donc ça leur montre quand même que le métier de cuisinier, c'est un côté artiste, côté débrouillardise, côté où on évolue, c'est un métier d'art, donc on peut vraiment s'exprimer dans le domaine de la cuisine. Et puis, en plus, comme dit Pasquale, on montre tous les produits qui poussent au Québec. C'est vraiment intéressant.
Il y a 8 hommes et il y a 4 femmes qui font partie de la brigade. Il y a déjà une des femmes qui a quitté l'aventure.
Oui. Mmh.
Est-ce qu'il y a encore une sous-représentation des femmes dans le métier de cuisinier ou de chef?
Bien, à l'ETHQ, lorsqu'on reçoit des demandes, en général, on a 40% en cuisine d'inscription, c'est des femmes. Des fois, pour se présenter au show Les Chefs, bon, il faut que tu aies au moins 3, 4 ans, 5 ans d'expérience. C'est souvent des femmes vont décrocher un peu plus rapidement que les hommes.
Mais les femmes vont surtout en pâtisserie maintenant. Ouais. Hein? Tu regardes dans les écoles hôtelières, les femmes sont surtout en pâtisserie.
Et le défi, quand on regarde les chefs, parce que la semaine dernière, il y avait une longe d'agneau en croûte de sel. Oui. Et je regardais les candidats aller, et les candidates, puis je me disais, coudonc, est-ce qu'ils ont revu leur base en cuisine? Comment ça se fait que certains ne savent pas comment faire une viande en croûte de sel? C'est une base qu'on doit apprendre, justement, quand on fait son cours de cuisine.
Effectivement, on enseigne plutôt des poissons en croûte de sel. Mais Daniel le dit souvent, c'est un concours de débrouillardise, de écoute, qu'est-ce que je fais là? Et ceux qui ont de l'expérience, ceux qui prennent le temps d'analyser la question, et ils réussissent. Ceux qui pitchent un petit peu sans bon plan de travail, ils s'enfargent.
Mais c'est énormément de pression. Hein. Ouais. Des fois, ils font des erreurs qu'ils ne feraient pas chez eux. Hein. Ouais. C'est fou la pression qu'ils ont, ces candidats-là. Parce que la croûte de sel, ça a toujours existé. Paul Bocuse, dans son livre, il fait un poulet en croûte de sel. ça fait partie des classiques de la cuisine, la croûte de sel.
Donc, théoriquement, c'est vraiment la caméra, c'est vraiment le show télé qui va venir biaiser leur réaction ou leur façon de se comporter.
Ça les perturbe, tout à fait.
Question, parce qu'on voit de plus en plus la popularité des mets préparés. Oui. Les marchés good food de ce monde, pour ne pas les nommer. Là.
Les boîtes repas.
Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous déçoit? Parce que autant que les cuisiniers et les chefs n'ont jamais été aussi présents à la télé que présentement, n'ont jamais eu autant d'exposure maintenant, vous qui êtes chef, là, qui en avez fait vos métiers respectifs, est-ce que ça vous déçoit de voir que malgré tout ça, malgré toute l'exposure qui existe, on se tourne encore plus vers la facilité maintenant?
Parce que le monde, ils vivent à 100 000 à l'heure. Hein. Les jeunes professionnels travaillent fort. Les enfants, ils ont deux enfants. Puis les enfants, ils font plein de sport, plein d'activités. Puis ils n'ont pas le temps. Donc, les parents n'ont pas le temps de faire l'épicerie. Ils ne veulent pas faire la vaisselle. La cuisine, c'est quand même assez long à préparer. Donc, ils vivent à 100 000 à l'heure. Alors, c'est pour ça qu'ils se retournent dans les plats préparés puis les plats surgelés.
Mais est-ce que ça vous déçoit?
Oui, c'est certain. Mais par contre, je pense que les fins de semaine, ils se payent la traite puis ils prennent le temps de cuisiner. Mais j'espère, du moins. Mais le problème, il est là.
Je comprends que des fois, on achète des produits prêts à consommer. Mais d'essayer de transformer le plus possible et donner comme mandat, je vais me donner 10 % de plus cette année de menu. Et l'année suivante, encore 10 et encore 10. Et à un moment donné, vous allez tout faire chez vous. C'est pas normal qu'on ne fasse pas nos propres bouillons, nos propres fonds à la maison. Nos propres bases de fonds de tarte. La pâte à tarte.
On peut avoir des petites machines sous vide, on a des congélateurs qui fonctionnent très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire des préparations d'avance.
Des fois, moi, je dis, si on se fait, même à la maison, un bon plan de travail, de dire qu'est-ce qu'on mange mardi soir, qu'est-ce qu'on mange mercredi, et de le planifier en famille, et que tout le monde décide, tout le monde dit, bon, moi, j'aimerais ça, on mange du poisson au camp, on mange une viande blanche, et c'est planifié dans l'horaire, et qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Un petit peu comme une journée de travail, là. C'est un petit plan de travail, mais on le fait pour la maison aussi.
Et je voulais revenir sur l'expérience au restaurant. Je suis allée à Chicago la semaine dernière. Là, je me suis payé la traite. Je suis allée dans des bons restaurants. Et il y a un très, très bon restaurant où on a vécu un service assez ordinaire. Puis je me suis posé vraiment la question toute la soirée en disant, ça vient beaucoup agrémenter ce qu'on goûte, ce qu'on mange dans la vie quand on va au restaurant. C'est pas juste alimentaire d'aller consommer un bon repas.
Moi, je dis souvent que si malheureusement l'assiette n'est pas à 100%, l'expérience en salle va sauver la situation. Mais souvent le contraire, c'est difficile de s'en sortir, d'avoir un bon repas et avec un service qui n'est pas tout là, on se souvient beaucoup plus de ça.
Ben, c'est un tout, un restaurant. Hein. Tu as l'accueil, tu as l'ambiance, tu as le décor, tu as la table, tu as la beauté de la table, tu as les nappes qui malheureusement disparaissent de plus en plus. C'est un tout, un restaurant, c'est comme un spectacle.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Il y a de plus en plus de restaurants qui n'ont plus de nappes, plus de fleurs sur les tables. Là.
Ouais. Ça fait une mode depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans.
Tout à fait.
Et moi, personnellement, j'aime le retour de ça. Là, parce que
retour de la nappe?
Oui, parce que c'est moins bruyant. Un peu plus chic.
C'est plus confortable, c'est plus agréable quand tu mets les mains sur la table, t'as une nappe, c'est plus doux.
J'avais même pas porté attention.
On est peut-être de la vieille école, mais moi j'aime toujours ça.
Mais vous connaissez la restauration mieux que nous tous. On dit que le milieu de la restauration, j'en parlais encore cette semaine avec des copains là, qui sont dans ce milieu-là, en disant c'est extrêmement difficile, c'est difficile de se tirer un profit, c'est difficile d'être en affaires ces années-ci, c'est encore plus difficile de se lancer en restauration.
Tout à fait.
C'est vrai.
Le constat, est-ce qu'il est négatif? Ou c'est peut-être pas le terme exact, là, mais quel constat vous faites justement de l'industrie de la restauration?
C'est sûr qu'il y a de plus en plus de restaurants, il y a de plus en plus de petits restaurants. Tout le monde, tous les chefs dans la trentaine qui ont du talent, qui cuisinent bien, veulent ouvrir leur commerce, veulent être leur propre patron. Mais il y en a beaucoup. Et puis maintenant, il y a les prix, hein, c'est certain. L'épicerie coûte de plus en plus cher, les salaires sont de plus en plus chers, les taxes, tout ça, tous les frais fixes sont de plus en plus chers. Donc, c'est certain que c'est dur. Puis en plus, il y a beaucoup de pertes. Donc, un chef doit savoir maximiser le produit, hein, savoir acheter, savoir compter. D'être bon cuisinier, ça ne suffit plus maintenant. Il faut vraiment savoir compter pour finir avec un profit à la fin de l'année, c'est certain.
Et souvent, l'erreur, c'est que il y a des gens qui vont investir dans un restaurant et ils vont dire, bon, moi, ça y est, j'ai de l'argent, j'ai toujours voulu un restaurant. Dis, tiens, Pasquale, toi, tu travailles comme sous-chef pour Jean-Luc Boulay. Donc, tiens, viens travailler pour moi comme chef. Et peut-être que je ne suis pas prêt pour faire tout ça encore.
Okay.
Et on me vend l'idée que je suis prêt. Et c'est là où souvent, un restaurateur avec, sans expérience et avec un chef qui n'est pas prêt vraiment pour assumer ce rôle-là, c'est là où le restaurant se plante.
C'est la 8e saison des chefs. On nous a vendu que c'était pour être la meilleure, c'est vrai. On nous a dit que c'était la meilleure ouverture.
Il y a beaucoup d'action, beaucoup de surprises, beaucoup de suspense. C'est très intense, surtout dans les duels. On vit toutes sortes d'épreuves à l'émission.
Bon, on a très, très hâte de voir ça. Oui. Merci beaucoup, Pasquale Varie. Merci, Jean-Luc Boulay. Et puis, on vous souhaite une belle saison des chefs.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous deux.